Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité politique en France.
Sauf qu'il peut.
Alors, en prenant un petit peu de hauteur et pas en étant tellement dans le commentaire minute par minute. on a le DAF qui est très intéressé par ce qui se passe sur la table. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement Lecornu n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire que Lecornu lui-même, à son poste, a été là pendant 26 jours, très précisément. Et l'annonce de son gouvernement s'est faite le dimanche soir, donc le dimanche 5 octobre 2025. Et puis ensuite, Lecornu, devant les pressions un peu extérieures et les menaces très très concrètes de censure du gouvernement, a donné sa démission directement le lundi matin, donc lundi 6 octobre
Et alors,
2025.
le président a accepté la démission et maintenant on lui demande de trouver quelqu'un d'autre?
Oui, alors il se passe quelque chose de très spécifique d'un point de vue constitutionnel, puisque en
Je
fait,
sais pas ce que ça sort, ça.
en
En
fait,
principe, c'est le rôle du président de chercher le Premier ministre, non?
oui, alors c'est le rôle du président de chercher le Premier ministre, ensuite c'est le rôle du Premier ministre de chercher le reste de son gouvernement.
Voir s'il aurait les soutiens au Parlement.
Voilà, exactement. Et là, en quelque sorte, Lecornu est renommé. Pas vraiment un poste de Premier ministre, parce que Lecornu a dit que il n'accepterait pas d'être Premier ministre, même s'il arrivait à un accord de gouvernement. Mais en revanche, bon, allez, tiens, il n'y a plus rien. Mais en fait, il est nommé à un poste qui n'existe pas vraiment d'un point de vue constitutionnel et institutionnel. C'est-à-dire que il est en quelque sorte le négociateur, celui qui doit trouver le futur gouvernement. Donc, il doit trouver aussi le Premier ministre, mais ne pas diriger lui-même le gouvernement. C'est très spécial, ça n'existe pas d'un point de vue du droit. Donc, déjà, je trouve que le fait d'avoir un poste aussi important qui n'existe pas vraiment, je trouve que ça en dit long sur à quel point cette constitution est périmée, quoi.
Bah en tout cas, l'utilisation de cette constitution est périmée parce que si je me souviens bien de mes études de droit constitutionnel en première année d'économie à Toulouse, c'était donc dans les années 62-63, c'est pour vous dire si ça remonte à longtemps, le président est en charge des intérêts suprêmes de la nation et le Premier ministre conduit et mène la politique, la politique du pays. Donc, là, si je comprends bien, le président qui est en charge des intérêts suprêmes de la nation a comme fonction principale de nommer le Premier ministre. Après ça, c'était à l'autre de se débrouiller, mais c'est pas plus comme ça se passe, mais c'était comme ça au départ. Et puis, donc, ce Premier ministre, maintenant, le président trouve que, ben, je sais pas, on va lui nommer, on va nommer quelqu'un entre les deux qui gérera le Premier ministre à la place du président.
Ouais, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire
Mais
que,
c'est pas
en
dans la
fait,
Constitution du tout, ça.
non, c'est pas dans la Constitution. Je reprends très exactement les termes d'abord de l'Élysée, puis de Sébastien Lecornu. Donc, c'était hier, donc puisqu'on enregistre mardi, c'était hier à 18h. L'Élysée annonce que le président de la République a confié à Monsieur Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire en charge des affaires courantes, la responsabilité de mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Ce sont des termes qui n'existent pas dans la Constitution. En fait, par là, ils voulaient dire un gouvernement, mais ils ont utilisé ces termes-là, plateforme d'action et de stabilité pour
Eh
le
bien, ça
pays,
veut dire
ce qui ne
que
veut rien dire.
Lecornu doit quoi? Aussi proposer, je sais pas, un référendum, la
Ouais,
démission du
un plan de
président.
gouvernance, je sais pas, un programme politique, j'en sais rien. En plus, d'ici mercredi soir, donc il lui redonne un ultimatum. Derrière, 10 minutes plus tard, Sébastien Lecornu s'est exprimé sur Twitter. Il a dit: j'ai accepté à la demande du président de la République de mener d'ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays. Je dirai au chef de l'État mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent.
Mais c'est bizarre.
Oui, c'est très bizarre, ça. Voilà, on est vraiment en dehors du droit. On n'est pas vraiment contre le droit, mais on est en dehors du droit. C'est juste, oui, c'est extrêmement étrange. Ça n'existe
Et
pas
en
vraiment.
plus, alors si Monsieur Lecornu ne trouve pas une plateforme qui satisfasse le président de la République, Qu'est-ce qui se passe?
Ah bah justement, le truc c'est que ça pareil, le jour d'avant, l'entourage de l'Élysée avait dit, ah oui, alors je reprends le truc, en cas d'échec des discussions, le président de la République prendra ses responsabilités, ce qui veut tout et rien dire. Est-ce que ça veut dire une dissolution? Est-ce que ça veut dire une démission? Est-ce que ça veut dire, j'en sais rien, activer l'article 16, ça peut être la notion de responsabilité telle que comprise par la psyché d'Emmanuel Macron après tout. Donc c'est oui, c'est extrêmement bizarre, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et alors, selon les différentes rumeurs, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les différents ministères, jusqu'à hier midi, donc lundi midi, Emmanuel Macron était parti pour dissoudre l'Assemblée nationale et tous les médias étaient prévenus pour une allocution à 20h. Ce qui était prévu par beaucoup de gens. Et au final, il a décidé de reconvoquer le cornu à l'Élysée pour lui dire non, non, je veux absolument que tu refasses un truc. Donc en gros, ce que tu n'as pas réussi à faire pendant 25 jours, tu dois le faire en 3 jours supplémentaires. À mon avis, c'est voué à
Alors là,
l'échec.
je peux poser une question. Quand j'étais jeune, il y avait des professeurs de droit qui étaient des constitutionnalistes, qu'on interrogeait, si vous voulez. Vous en aviez quelques-uns qui étaient de gauche, d'autres de droite, du Verger ou je ne sais plus qui, Raymond Aron. Est-ce qu'il y a quelques-uns des constitutionnalistes qui disent quelque chose ou ils n'ont rien à dire?
Je ne sais pas. En plus de ça, il peut y avoir des zones d'ombre dans le droit constitutionnel. Typiquement, il y a une zone d'ombre. Bon, alors, c'est quand même assez. C'est une zone d'ombre, on va dire, à 10 ou 20%. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est pas certain si Macron venait à démissionner, donc il serait remplacé à titre d'intérim par Gérard Larcher, puisqu'il est président du Sénat. Et.
Il faut refaire les cuisines de l'Élysée, là.
Voilà, faut casser une pièce ou deux, je pense, et puis refaire de la place pour les cuisines, et prévenir un peu tous les fournisseurs de France et de Navarre. Mais au-delà de ça, donc derrière, il y a des élections qui sont prévues pour 20 à 35 jours suivant, on appelle ça la vacance du gouvernement, du président de la République, pardon. Et la question peut se poser d'un point de vue constitutionnel de s'il aurait le droit de se présenter à cette élection-là, puisqu'il n'aurait pas effectué un mandat complet. Et en fait, comme ce n'est pas tranché directement dans la Constitution, ce serait au Conseil constitutionnel de trancher sur cette
On a
question-là.
confiance là, parce qu'avec des
Ouais.
gens d'une probité,
Une
qui
objectivité.
a été absolument. Donc on sait très bien que pour faire partie du Conseil constitutionnel, il faut avoir un casier judiciaire. Mais enfin, ça c'est autre chose. Donc on est dans un no man's land de droit.
Oui, un peu, ouais. Et d'ailleurs, que ce soit celui qui active l'article 16 ou celui qui est président par intérim, donc en l'occurrence ce serait Gérard Larcher, il n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a pas le droit d'interdire au Parlement de se réunir, ça je parle surtout pour l'article 16, le président de la République ne peut pas engager ou poursuivre une révision de la Constitution. Donc ça aussi, c'est une hypothèse que envers laquelle vous avez tendance à pencher de temps en temps, c'est l'activation de l'article 16. Parce que Macron est égal à lui-même et qu'il peut avoir envie de se dire, bon bah si c'est comme ça, c'est moi
Je
qui
vais
gère tout.
gouverner tout seul.
Voilà, exactement.
Ce qui ne lui aurait pas comme un gant, compte tenu de ses capacités, on peut pas attendre
Oui.
on peut attendre
Bah,
les résultats.
ça lui irait tout à fait. Ce serait Macron président, Macron Premier ministre, Macron
Vous savez,
ministre des Armées, puisque
quand
visiblement c'est
j'étais
un
enfant, il y
poste
avait des
compliqué.
trucs, c'était Martine à la montagne, Martine
Ah
à la mer,
ouais,
Martine.
c'est ça.
On fera une série de bandes dessinées.
Voilà, exactement.
Macron à l'Assemblée, Macron au ministère des Armées. Vous vous souvenez quand il avait été visiter l'armée de l'air, il s'était déguisé en Top Gun là, avec un truc de. C'était grotesque. Bref. Donc, essayons de résumer ce que vous êtes en train de me dire. On est dans un no man's land juridique total,
Oui.
dans lequel, par définition, personne ne peut prendre une décision.
Oui.
Ce me semble-t-il.
Oui.
Heureusement qu'il n'y a aucun problème économique, financier, etc., qui se profite à
Heureusement,
l'horizon.
non, 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 pas du tout. On est dans la stabilité la plus
Voilà,
totale,
tout
bien
va
sûr, bien
bien,
sûr.
nos comptes sont à l'équilibre et tout. Donc, j'ai quand même un problème. C'est que cette classe dirigeante, elle nous a amenés dans cette situation d'endettement, de quasi-faillite, etc., depuis 20, 25 ou 30 ans. On pourrait penser que devant l'imminence du trou noir, là, elle se focalise un peu sur les intérêts de notre pays. Pas du tout. La seule question, c'est de savoir si M. Philippe va avoir 13% des voix ou 18%. Donc, ils sont tous en train de s'exciter sur ce qui pourrait être le prochain président. C'est-à-dire, ça me rappelle exactement la phrase de De Gaulle quand on lui avait demandé s'il craignait pas, si De Gaulle ne craignait pas le vide politique une fois qu'il serait parti. Il avait dit, je crains pas le vide politique, je crains le trop-plein. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un trop-plein de médiocres. Dont aucun... Je veux dire, imaginez qu'on vous demande de devenir président de la République. Et quelque part, c'est un boulot impossible, d'une difficulté rare, etc. Donc, la plupart des gens se diraient, écoutez, vous êtes gentil, mais non, parce que je suis pas compétent. Là, il y en a 25 qui disent qu'ils peuvent y aller. Il y a donc 25 crétins qui pensent assez compétents pour s'occuper des affaires de la France dans l'état où elle est. Je sais pas, moi je suis un peu surpris de toutes ces compétences qui, pour l'instant, étaient pas évidentes, hein, parce qu'on les a pas beaucoup vues à l'œuvre.
Oui, mais en même temps, à force de délire plus médiocre à chaque fois, ce que vous disiez hier sur Sud Radio, c'est à chaque fois on se demande comment c'est possible, mais
on va plus bas, il creuse.
Voilà, et là où on croit avoir touché le fond, en fait, il y a toujours de la place pour encore plus.
Ben moi, quand Hollande a été élu, je me suis dit on peut pas aller plus bas. Et ben si.
D'une autre manière.
Non, pas d'une autre manière, juste d'une incompétence totale, une incapacité à prendre des décisions. Je sais pas. Essayons de réfléchir, puisque si on reste dans cette hypothèse que chacun des présidents était pire que le précédent, on est arrivé à, on se dit on peut pas aller plus bas. Donc ça, c'est une première erreur intellectuelle, on peut aller plus bas. Mais à votre avis, parmi tous ces candidats, lequel serait à votre avis le plus, encore moins bien que Macron? Si je vous deviez chercher dans votre tête. Moi, je me dirais Attal, mais...
Attal serait sans doute peut-être pire. Je pense Édouard Philippe aussi. Alors après, il y a des gens avec qui j'ai un désaccord idéologique de base. Donc on va dire, même si c'était des bons présidents du point de vue de leur sociologie politique, pour moi, forcément, ce serait désastreux. Typiquement, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, je dirais, a une certaine stature, mais je suis en opposition avec l'intégralité de ses idées.
Oui, en plus, si Jean-Luc Mélenchon arrive, la faillite arrivera immédiatement en France, parce que tout le monde se barra tout à l'heure.
Effectivement. En plus de ça, même Marine Le Pen, qui, on va dire, a une certaine stature aussi, même si beaucoup doutent à tort ou à raison de ses compétences, est inéligible. Donc en plus de ça, elle serait remplacée par Bardella, qui est encore plus jeune et plus inexpérimenté. Alors parfois, on peut dire que l'inexpérience, c'est pas forcément un problème. Il y a des grands hommes très inexpérimentés.
C'est que disait Napoléon, si ce général est trop jeune... Voilà quelque chose que le temps arrangera.
Oui, tout à fait. Et puis, je veux dire, ça aussi, c'est un argument sur la compétence et l'âge, etc., on va dire l'expérience. Depuis 50 ans, on est certainement dans toute l'histoire de France dirigé par les types les plus compétents et les plus expérimentés de toute notre histoire.
Enfin, ceux qui ont fait les écoles.
Oui, c'est ce que je veux dire.
C'est peut-être la première fois dans l'histoire de France que la France n'est pas dirigée par quelqu'un qui avait l'expérience de la guerre. C'est nouveau. Parce que, dans les guerres, si vous voulez, on voit en général surgir ceux qui ont du courage, du caractère, et ceux qui se précipitent à l'arrière pour faire des déclarations.
C'est facile de faire le tri après.
Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, quand vous les regardez comme ça tous, il n'y en a pas un que vous auriez envie de suivre.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça.
Il n'y en a pas un. Il vous dit, on sort de la tranchée, les gars, et vous dites, oui, mais toi, tu sors, mais moi, je reste.
En fait, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui. Alors, ça peut être en lien avec la qualité du personnel politique, mais je pense que c'est aussi en lien avec une constitution qui sans doute était justifiée à son époque, mais qui aujourd'hui, je pense, est totalement datée et qui est injustifiée. On peut considérer que des institutions sont compatibles avec le contexte particulier d'un moment, et puis qu'ensuite, bah, ça se fatigue et
C'est
qu'il
le
faut
drame de
passer à
la
autre
France, c'est
chose.
pour ça qu'on a eu je sais pas combien de républiques, je sais pas combien de
Ouais.
royautés, je sais pas combien
C'est sûr,
d'empires.
ce serait pas nouveau dans notre histoire de changer de cadre. Et donc, je pense qu'en fait, la présidentielle qui décide d'absolument tout dans nos institutions, dans notre manière de percevoir la politique, c'est un peu on vit au rythme de la présidentielle à chaque fois. La présidentielle, dans son essence même, n'est plus du tout adaptée à notre contexte politique, en fait.
D'abord, évidemment, puisque tout est centralisé chez un homme. Or, aujourd'hui, on
Ouais.
a besoin que toutes les décisions soient prises le plus près possible des gens qui vont en bénéficier ou en souffrir, c'est-à-dire on a besoin de la subsidiarité. Et en France, on fait tout monter en haut à la place de tout faire commencer par le bas. Donc, non, la Constitution de la Ve est une constitution qui a été faite par De Gaulle, littéralement, pour sortir la nation française de l'Empire français. L'Empire français était en train de s'écrouler, donc il fallait faire sortir la nation française de cet empire sans trop de dégâts. Bon, on peut lui donner ce mérite, elle y est arrivée. Mais maintenant, il faut, en quelque sorte, l'étape suivante, ce serait de libérer la nation française de l'État français.
Oui.
Je crois que il faut décoloniser la France. Si j'ose dire, les colonies sont décolonisées il y a longtemps. Maintenant, c'est au tour des Français de se décoloniser, quoi.
Oui.
Il faudrait faire un système. Donc cette constitution est complètement incapable de faire ça,
Oui, tout à fait.
ce qu'elle fait, c'est qu'elle maintient le roi de France comme garant de l'unité, mais c'est plus vraiment le problème, quoi.
Oui, et puis aujourd'hui, le roi de France, il est vraiment endommagé. L'institution en elle-même est endommagée. Autrefois, c'était les Mélenchon et Le Pen qui demandaient la démission du président de la République. Maintenant, ce sont même ses premiers soutiens qu'il demande. Édouard Philippe, ce matin même sur RTL, disait qu'il fallait qu'il démissionne. Alors, il a précisé, comme j'ai dit, après la vacance du président, l'élection, du coup, doit se faire dans les 20 à 35 jours suivant le départ de cette vacance.
C'est pas assez.
C'est pas suffisant. Et donc, Édouard Philippe voudrait que, en quelque sorte, on ait un gouvernement très provisoire, qui soit là pour faire une loi de finances et gérer les affaires courantes,
Il
et
faudrait dire que
que...
le président dise, je démissionnerai le 1er mars 2025.
Voilà, c'est ça, exactement. Et
Comme ça, on
donc,
pourra faire 6 mois de campagne, quoi.
voilà, comme ça, il démissionne le 1er mars, on fait l'élection le 1er avril, comme ça, on sait que le résultat est une blague de toute manière. Mais cela dit, ce serait pas impossible de procéder comme ça. Et donc, oui,
Mais
c'est
ça
ce qu'il
serait supposé
propose.
que Monsieur le Président de la République a à cœur les intérêts de notre pays, ce qui
Oui,
semble
tout
pas
à
être
fait.
évident.
J'imagine. Alors, la démission est très contraire à sa psyché. C'est tellement contraire que finalement, quelque part, il a un peu refusé la démission de Le Cornu. Le Cornu a démissionné. Il lui a dit, pop, 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 ça, c'est pas dans mon vocabulaire. Reviens par ici et refais-moi un gouvernement, s'il te plaît. Ensuite, tu peux partir, mais d'abord, fais-moi ça.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des émissions de lui en 90. En 2017 ou 2018, je ne sais plus quoi, qui disait si le président perd la confiance du peuple, il est évident qu'il doit s'en aller. Donc on le voit en
Ouais.
train de dire ça, mais on lui dit, mais
Ouais,
qu'est-ce que tu attends, mon grand?
tout à fait. Et plus il tarde, sachant que quand même sa cote de popularité ne fait que s'amoindrir, plus se posera la question de la destitution du président de la République.
Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même le Parlement, les deux chambres, et qu'il y ait les deux tiers des voix.
Oui.
Et qu'il ait commis je ne sais quelle infamie, donc.
Oui, alors c'est interprétable de manière très diffuse. Et d'ailleurs, il peut être destitué aussi pendant l'activation de l'article 16, à tout moment. Donc effectivement, il faudrait 70% enfin 2 tiers, pardon, plutôt des deux chambres, donc 2 tiers de l'Assemblée nationale, mais aussi 2 tiers du Sénat pour que ça passe. Et en fait, il faudrait que ce soit un manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc après, ça c'est quelque chose on peut interpréter un peu dans tous les sens. On peut considérer par exemple que il abuse de sa fonction d'une
Mais
manière ou d'une
on
autre.
peut pas considérer que si vous voulez être incompétent
Oui, soit un
ou être
manquement beaucoup.
impopulaire, être incompétent et ou être impopulaire, ça vaut, ça mérite d'être pris comme mesure qui permet de virer le président.
Ouais.
S'il fallait virer tous les gars qui sont incompétents dans le service public,
Oui.
on n'aurait plus de problème de déficit, hein.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr, c'est une question qui se pose pas encore tout à fait aujourd'hui, la question de la destitution. Je pense que déjà, dans un premier temps, les gens n'ont pas forcément envie de destituer le président parce que c'est un organe tellement central dans la Constitution que ça fait vraiment,
Et puis je crois pas qu'on trouverait les. Vous aurez bien 40% des députés sur lesquels le président a des informations privilégiées.
Le truc, c'est que aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il retrouve encore ce soutien quand on voit que même au sein de ces hommes, on demande à sa démission. Le fait
Oui,
que
mais
ce
c'est la même
soit,
chose qu'il soit plus soutenu par ces hommes
oui,
et ensuite que ces hommes aillent le crucifier, quoi,
je
je veux
suis
dire.
d'accord, mais en l'espace de quelques jours, il peut se passer énormément de choses.
Il faudrait que maintenant, avec l'aide de la CIA, peut-être s'ils nous entendent, il y ait quelques dossiers tout à fait extraordinaires qui sortent sur Macron pour montrer que dans le fond, il mérite d'être
Oui.
destitué.
Ouais. Mais en tout
C'est pas
cas, c'est
impossible de.
70% des Français, j'étais étonné que ce soit aussi élevé, 70% des Français sont favorables à la démission du président.
Démission, je suis toujours d'accord, absolument.
Ouais. C'est énorme. Contre, c'était 54% l'an dernier.
Si on avait une constitution comme il faut, on pourrait avoir ce qui s'appelle un référendum de rejet, c'est-à-dire qu'on
Ouais.
aurait pu demander aux Français il y a 3 ou 4 mois,
Ouais.
est-ce que vous êtes sûr que vous avez eu raison de voter pour lui il y
Oui.
a 3 ou 4 ans, ou
Oui.
est-ce que sinon, on pourrait peut-être lui demander de partir maintenant, quoi, donc.
Ouais. Ouais. Et bah, par conséquent, derrière, on a aussi Gabriel Attal, hein, qui a des mots assez durs sur le président de la République, qui dit qu'il comprend pas ce qu'il fait, etc. Enfin, il est lâché par son propre camp de partout. Il a encore des soutiens fidèles, des gens qui espèrent que voilà, il va se maintenir d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on perçoit aussi,
C'est Brigitte?
alors, oui, Brigitte est un soutien indéfectible, c'est sa couille droite. Et derrière, il y a aussi alors un journaliste qui s'appelle Louis Hausselter, qui a révélé enfin, qui révèle ce qu'on savait un petit peu déjà, mais avec des mots de couloir, que en fait Emmanuel Macron ne cherche pas vraiment de successeur. Il cherche quelqu'un à la limite pour lui maintenir le siège au chaud pour 2032, si tout se passe bien. Mais c'est un petit peu ça qu'il cherche, c'est un petit peu ce que quelque part Poutine avait fait en 2008 avec Medvedev. Pour ne pas faire plus de 2 mandats consécutifs, ce qui était interdit dans la constitution russe, et ben c'est interdit aussi dans la constitution française, et donc il voudrait quelqu'un pour lui tenir le siège au chaud, ou alors avoir un candidat du RN qui arrive aussi à la présidence de la République et reprendre le flambeau ensuite après un échec inéluctable du Rassemblement national.
Si vraiment le président Macron pense qu'il pourrait revenir dans 5 ans avec les Français qui penseraient que du temps de Macron c'était le bon temps, ça veut vraiment dire que ce qu'il y a entre maintenant et les 5 ans qui viennent, ça va pas être le bon temps.
Ouais.
Parce
Non
que qu'on
mais.
considère que les 5 dernières années ont été le bon temps,
Ouais.
ça c'est un saut de l'esprit qui me paraît difficile à faire, quoi. Que
Ouais.
les gens pensent que les années Mitterrand c'était sympa, bien sûr, parce qu'il est en train de vendre toutes les. De gaspiller tous les bijoux de famille et tout l'héritage des Français. Donc les Français ont vécu noblement sans travailler, en rigolant, pendant 14 ans, mais c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Donc, non, moi je serais surpris que quelqu'un ait envie de revoir Macron dans 5 ans.
Ouais. Mais il y en a, hein. Il a toujours des soutiens, à peu près 15% de l'opinion aujourd'hui qui
Moi, je crois
continuent de
que, vous
soutenir.
savez, ayant fait des sondages d'opinion moi-même, je crois que les 15%, on a dit de toute façon, on ne trouvera pas moins de 15%. Donc.
Ouais. Mais après, je veux dire, il était déjà, alors pas autant qu'aujourd'hui, mais il était déjà assez rejeté en 2022, il s'est quand même fait élire.
Oui, mais il y a eu la guerre avec
Oui.
elle. Et Madame Le
Le
Pen
Pen.
a fait un très très mauvais, une mauvaise campagne. Zemmour s'est planté sur la Russie. Enfin, je veux
Ouais.
dire, il a eu un coup de peau et il y a eu la guerre, quoi.
Oui, il a eu un
Et
coup de peau.
du coup, il n'y a pas eu de campagne.
Et derrière, ce qu'on voit, c'est que, alors, pour reprendre encore une fois des sondages, le centrisme, le macronisme, est en chute libre, complète. C'est-à-dire que l'an dernier, lors des élections législatives, le groupe Ensemble, donc c'est tous les macronistes, Horizon, etc., le Modem, machin, ils ont fait 22%. Aujourd'hui, ils sont mesurés autour de 14. Donc, en fait, largement en dessous déjà du RN et puis du NFP.
Donc la question, c'est si on a des élections législatives, si, mettons, il y a une dissolution, est-ce qu'ils vont nous refaire le coup du Front populaire avec les socialistes qui vont voter pour les...
Ah oui, bien sûr.
Ben, je sais pas s'ils peuvent le faire, parce qu'après avoir dit tout ce mal qu'ils ont dit du LFI, et toutes les affaires qui sortent sur le LFI, qui sont achetées, qui reçoivent de l'argent du Qatar ou je sais pas quoi, ça va devenir difficile. Parce que s'il n'y a pas ces espèces d'apparentement, à ce moment-là, il va y avoir une majorité à l'Assemblée nationale
Oui.
du Rassemblement national, hein.
Ouais. Non, mais moi, je pense qu'ils sont capables de tout. Honnêtement, s'ils ont fait l'alliance en 2024, pour moi, ils referont l'alliance en 2025 ou en 2026. Je pense que pour eux, le calcul, il est vite fait en termes d'intérêt. Le PS a intérêt à le faire. En plus de ça, c'est le bureau politique qui est favorable. Donc, à mon avis, ils vont plonger droit dedans. Et d'ailleurs, on se souvient aussi, au moment, juste avant les élections législatives de 2024, les Gabriel Attal et autres disaient pique-pendre de la France insoumise. Et derrière, pour le second tour, ils ont quand même fait barrage commun contre le
Parce
Rassemblement
que
national.
leurs élections à eux dépendaient du vote LFI.
Ouais.
Non, mais c'est possible, à ce moment-là, on arrive dans un système qui est celui des apparentements de la 4e République, et c'était pour empêcher d'arriver au pouvoir les gaullistes. Ben, on se retrouve dans une situation un peu similaire, mais
Ouais.
ça s'est mal terminé pour la 4e République, quoi.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, on aurait encore un blocage institutionnel, on se retrouverait avec peu ou prou une chambre très très similaire. Après, encore une fois, selon quelques sondages récents, les gens seraient moins à même de refaire ce barrage. Mais enfin, il y aurait quand même un mouvement similaire malgré tout, surtout si le RN est le seul parti qui serait en mesure d'avoir la majorité absolue, parce que c'était le cas la dernière fois. Et les gens ont été un peu, je pense, surpris et certainement un peu déçus d'apprendre que le NFP, qui aurait dû être la troisième force politique à l'Assemblée, se retrouve première force politique. Ça, c'était assez inattendu. En même temps, ils ont voté pour, donc.
Donc, ouais, enfin, ils ont fait. On dit les Français, ont voté pour, mais avec tous ces trucs d'appareil et tout, je sais pas combien de Français ont été votés. Deuxièmement, ce pourquoi ils votaient n'est pas très clair.
Ouais, c'est
Donc,
clair.
et si on me résumait sur ce qu'on dit, parce que tout ça. Hein, donc, si je comprends bien ce que vous essayez de me dire, là, c'est que la constitution de la 5e, c'est quand même pas la panacée, quoi.
Non, non, non.
Donc, elle nous a amenés dans une situation de blocage, d'incertitude. Les décisions qui ont été prises depuis 10, 15, 20 ans dans le domaine économique n'ont jamais été les bonnes. Donc, la constitution de la 5e a favorisé l'effondrement de la qualité des pouvoirs en France.
Oui.
Bon. Donc, la constitution de la 5e n'empêche plus, en tout cas, l'instabilité ministérielle.
Non.
Et de forme d'élection qu'on a amène au pouvoir des gens qui sont bizarres. Enfin, qui sont pas. En tout cas, qui n'ont pas fait preuve de résultats superbes.
Oui.
Donc, ce n'est pas une crise de personne qu'on a, c'est une crise institutionnelle. C'est la crise de la Constitution française qu'on a.
Est-ce que c'est pas un petit peu des deux aussi?
Ben oui, mais si une constitution amène que des corneaux,
Oui.
c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans cette
Ouais,
constitution, quoi.
c'est vrai, c'est vrai.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la France se heurte, le peuple français se heurte à une constitution qui ne correspond plus du tout à ce que ce dit peuple français voudrait avoir.
Ouais, c'est oui, tout à fait.
Et alors, comment on résout ce problème?
Et bah, je pense déjà en appelant au peuple, mais le truc c'est que souvent on appelle au peuple par des moyens un peu détournés, et puis ensuite on lui dit vous pouvez choisir, mais faites pas ça et faites pas ça non plus. C'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois avec la dissolution, c'est-à-dire que Macron dit je redonne la parole au peuple, et puis il y a un premier tour qui s'est passé en conditions à peu près normales, Et puis ensuite, il y a un second tour qui s'est passé où il y a eu une propagande généralisée absolument massive, absolument colossale, pour dire que surtout, surtout, le plus important, c'était de ne pas avoir Bardella à Matignon. Alors qu'en fait, ce qui allait se passer, très vraisemblablement, s'il n'y avait pas de Front républicain, c'est que le RN allait avoir une majorité relative. Et qu'en fait, ils allaient être obligés de travailler avec les LR pour former un gouvernement, peut-être même avec une partie des macronistes, peut-être on va dire le tiers de macronistes le plus à droite, entre guillemets,
Ou des gens de Beyrouth,
ou des gens,
ils
voilà,
sont
ou des
toujours
gens de
prêts à
Beyrouth,
trahir ceux-là, donc il n'y
voilà,
a
qui
pas de
sont prêts à
problème.
travailler avec n'importe qui pour être au gouvernement, donc
Ouais.
le barycentre de la politique.
Barisan de la politique. Non, mais c'est-à-dire que quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde l'Angleterre, quand on regarde la France, on se rend compte que les institutions de ces trois pays aujourd'hui ne correspondent plus à la période dans laquelle on vit.
Oui.
Donc on a partout dans les trois plus vieux pays d'Europe, mais donc. L'Italie a résolu son problème un peu. Elle aurait pu avoir des problèmes, mais elle a réussi à s'en débarrasser. Donc, il faut trouver une façon pour que nos pouvoirs politiques redeviennent légitimes et légaux à la fois. Je sais pas ce qu'on va trouver, mais en tout cas, on a un vrai problème devant nous, c'est une réforme constitutionnelle.
Oui, c'est clair, il
Je
faut
ne
une
crois pas qu'on
réforme.
puisse en faire l'économie.
Ouais, tout à fait. Et le truc, c'est qu'on a aussi des partis politiques qui sont totalement divisés sur la manière dont ils voient l'avenir institutionnel. C'est-à-dire qu'à gauche, on va dire chez Mélenchon et
On pourrait trouver là,
au PS,
Mélenchon est favorable là.
à la 6ème République.
Oui, mais aussi au référendum d'initiative populaire. Il y a toute une partie de la droite du RN aussi. Donc on pourrait se mettre d'accord sur l'introduction d'un référendum d'initiative populaire pour que le peuple puisse.
Oui.
À mon avis, c'est la réforme qu'il va falloir faire parce que sans ça, on s'en sort pas, quoi.
Oui, je pense que c'est une nécessité aussi. C'est vrai ce que vous dites, c'est de manière générale, c'est la démocratie représentative qui est mise à mal, pas juste en France. En France,
Parce
on
que
a
le
l'impression que
représentant ne
là.
représente plus qu'eux. Il ne
Voilà.
représente plus le peuple. Donc, comme les représentants ne représentent plus qu'eux, bah, il faut que le peuple s'exprime directement parce que, apparemment, l'écran supplémentaire qu'on a mis, ces représentants qui sont censés être compétents dans un tas de domaines, quand vous voyez comment s'appelait l'ancien chauffeur de Mélenchon,
Oui, de l'Ogu, Sébastien
Delogu,
Delogu.
qui ne parle pas le français et tout, vous allez vous dire, c'est quand même pas ce gars-là qui va faire une réforme constitutionnelle, quoi, c'est pas. Donc, on arrive à la conclusion que ça n'est que les prémices, ce qui se passe en ce moment, d'une crise institutionnelle beaucoup plus grave.
Ouais.
Je crois que c'est ce qu'on dit, non?
Oui. Je pense qu'aussi qu'on y est et certains se mettent des œillères, notamment les LR sont forcément, comme ils se disent, gaullistes, sont extrêmement attachés à la Constitution de 58 et donc eux ils veulent la
Et qui n'a
sauver
plus rien
coûte
à
que
voir avec
coûte.
celle de Gaulle, hein, parce que
Alors.
la Constitution de 58, Chirac aurait dû démissionner, Mitterrand aurait
Oui.
dû démissionner, donc ils sont passés là-dessus sans rien dire un
Il y
mot,
a
là.
une différence entre la Constitution de 58 telle que exercée, pratiquée par De Gaulle et celle pratiquée par
Oui, c'est
ses
pour ça qu'ils ne peuvent
successeurs.
pas se réclamer du gaullisme, hein,
Oui.
puisque leur chef à l'époque, Chirac, est resté tranquillement attaché sur son siège. Mitterrand est resté tranquillement. Donc ils ne peuvent pas dire cette constitution. Puisque si, normalement, ce que disait De Gaulle, c'est que si vous faites un référendum et que vous le perdez, vous vous en allez. Eh bien, c'est resté.
Ouais, non, mais c'est très curieux parce que par exemple,
Qu'est-ce que ça a de gaulliste de rester?
ça a absolument rien de gaulliste. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que tous ceux qui se revendiquent du gaullisme demandent tout et son contraire.
Il
Comment il
faudra donner
s'appelle?
le référendum au peuple, ça c'est sûr.
Oui, voilà, par exemple, Retailleau se revendique du gaullisme en disant qu'il faut de la stabilité, donc il faut pas que le président démissionne. On va dire, il n'y a rien de plus gaulliste que de démissionner. Déjà, le général de Gaulle a tellement mal pris le fait de ne pas gagner l'élection dès le premier tour en 1965 qu'il a failli déjà démissionner à ce moment-là et on a dû le convaincre du contraire.
Oui, en plus, il était parti en 45 ou en 46, il était parti parce qu'il n'était pas d'accord avec le projet de
Oui,
constitution. Donc,
ouais.
voilà. Donc, essayons de résumer. C'est une crise institutionnelle. Elle est grave, elle est loin
Oui.
d'être terminée,
Oui.
et elle a comme cause principale l'inadaptation de nos institutions au monde actuel.
Oui.
Et donc, il va falloir trouver quelqu'un qui mette la Constitution en accord avec le monde actuel en donnant la parole au souverain, quoi.
Oui.
Parce que c'est à lui de prendre les décisions maintenant, parce que nous, on ne peut pas les prendre. Enfin, je veux dire, le personnel politique ne peut pas les prendre parce qu'il n'est pas légitime pour le faire.
Et est-ce que vous pensez que, parce que c'est un modèle dont on parle assez souvent, d'ailleurs, la semaine dernière, vous avez fait une émission avec... Donc, qui paraîtra bientôt avec
Monsieur Mott.
quelqu'un qui est voilà Dominique Mott, qui est tout à fait spécialiste de la démocratie suisse, qui a rédigé un pavé pas possible sur la question.
Et qui était très bien d'ailleurs, et c'était très intéressant. Mais moi, là que j'ai discuté avec lui donc pendant 1 heure, vous le verrez. Mais la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la gestion de tous les jours, qui en Suisse est très proche du citoyen. Et puis vous avez les grandes décisions, l'initiative populaire pour réclamer un débat sur quelque chose. Et c'est deux choses différentes. Donc je me dis, faire gérer le système étatique français d'éducation comme le sait en Suisse, ça prendra du temps, ça sera difficile. Mais par contre, donner un droit d'initiative au peuple pour exiger que le peuple tranche sur un sujet, on n'a pas besoin d'être juste pour faire ça. Ça peut se faire facilement. Ça, vous faites un référendum d'initiative populaire et le citoyen reprend l'initiative de l'ordre du jour.
Alors pour ça, il faut, enfin, pour le coup, c'est même pas une réforme constitutionnelle qu'il faut faire, c'est une nouvelle constitution.
Non, vous pouvez simplement changer le principe du référendum en disant, par exemple en Suisse, il y a un système qui s'appelle le droit de refus. Le Parlement vote une loi, quelqu'un fait un référendum, demande un référendum, dans cette loi c'est une grosse saloperie, et le peuple refuse la loi. Et à ce moment-là, bon ben elle disparaît, puis c'est fini, on n'en
Bah
parle plus.
c'est très bien, mais par exemple, ce qu'on a en France, alors je parle même pas de notre procédure de
Oh non, c'est même
référendum
pas la
si
peine,
tu
c'est une
vas,
plaisanterie, c'est encore une saloperie de ça. Oui, c'est
mais ce
ça.
qu'il y a, c'est que quelle que soit la proposition, qu'elle vienne du peuple, qu'elle vienne du Parlement, qu'elle vienne du président de la République, ça doit passer par le Conseil
Eh
constitutionnel.
bien, ça, il faut le fermer.
Ça, il faut le
Premier,
fermer
il faut
complètement.
le fermer complètement. Comme disait De Gaulle, on n'a pas besoin d'un Conseil constitutionnel quand il y a un référendum. Donc, si vous voulez, le Conseil constitutionnel, c'est un truc qui n'a pas lieu d'être. C'est un gouvernement des juges. Il n'y
Parce
a pas de Conseil
que
constitutionnel en
on
Suisse.
se souvient en 2022, il y a une question quand même sur laquelle le peuple a très envie de s'exprimer, c'est l'immigration.
Oui,
Voilà.
on a toujours refusé.
Évidemment, tous les sondages disent que à peu près c'est entre 60 et 70% à chaque fois des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration. Bon, à tort ou à raison, c'est même pas
Il
la
y a
question.
aussi 70% des gens qui disent j'aimerais bien m'exprimer sur ce sujet, voter
Oui,
sur ce sujet.
absolument.
Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Mais c'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils puissent s'exprimer
Oui,
pour
parce
qu'ils.
qu'on ne s'est jamais exprimé dessus, c'est quand même un
Parce que
sujet assez
le sondage
important.
d'opinion, c'est pas un vote, hein.
Et d'ailleurs, la Suisse s'exprime souvent sur ce genre
De
de
sujet,
sujet.
voilà.
Et c'était, comment il s'appelle, Laurent Fabius, donc à l'époque président du Conseil constitutionnel, qui avait dit en 2022, quand c'était Zemmour et Marine Le Pen qui en parlaient, je crois même que Valérie Pécresse en parlait d'ailleurs, et Laurent Fabius avait donné à l'avance le fait que le Conseil constitutionnel allait refuser le principe de la tenue même d'un référendum là-dessus.
Eh ben, il faut mettre simplement Monsieur Fabius en prison comme elle aurait dû être après l'affaire du sang contaminé et lui dire le Conseil constitutionnel n'a plus de raison d'être. Donc ça, c'est une réforme constitutionnelle qui peut être faite par référendum. On fait un référendum sur l'existence du Conseil
Et du
constitutionnel.
coup, forcément, ça c'est nécessairement, du point de vue du Conseil constitutionnel, un référendum illégal. Donc on est obligé de raisonner hors droit pour entrer dans le droit quelque
Non,
part.
non, oui, mais le droit, si vous voulez, le droit, il est rendu au nom du peuple français, la justice. Il n'est pas rendu au nom du Conseil constitutionnel. Donc, si le peuple français décide de faire un référendum sur l'existence du Conseil constitutionnel, il ne peut pas être arrêté par le Conseil constitutionnel.
Quand on avait discuté avec Dominique Motte pour préparer l'entretien, il m'avait dit quelque chose de très intéressant, je trouvais, et on n'a pas du tout cette conception en France. Il dit que la parole du souverain est au-dessus de tout.
Tout, de tout. Et le souverain, c'est C'est le peuple.
Voilà.
Chaque individu est complètement souverain.
C'est au-dessus des règlements, c'est au-dessus des lois, c'est au-dessus de la Constitution.
Il ne peut pas y avoir de... Une fois que le souverain a parlé, plus personne n'a rien à dire.
Ouais. Et ça, c'est une grosse différence avec notre conception de la démocratie. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment en démocratie, mais qu'on est plutôt dans une république. C'est que la république, elle est là pour cadrer en quelque sorte la démocratie.
Oui,
elle
mais
dit...
la république, une république constitutionnelle, c'est ce qu'ont fait les États-Unis.
Ouais.
Mais si vous voulez, le Conseil, la Cour suprême des États-Unis, est au même niveau. Il y a trois pouvoirs aux États-Unis qui sont tous les trois au même niveau. Et en effet, personne ne songe à abolir la Cour aux États-Unis. Mais en même temps, ce sont des juges inamovibles. Il y en a neuf, je crois. Sept, neuf, je crois. Il y en a neuf. Et ils sont d'abord inamovibles. Et ensuite, ils n'ont, pour ainsi dire, jamais fait de politique. Ils ont toujours, la plupart d'entre eux font leur carrière toujours dans le...
Et ce sont des véritables juristes.
Ce sont des véritables juristes et qui sont reconnus comme tels par tout leur... Donc, que la Cour suprême, par exemple, si on dit que il faut mettre en prison tous les juifs et tous les coyotes, tous les coiffeurs, vous savez, etc., disent ça, non, ça, c'est pas possible.
On peut pas faire ça aux coiffeurs.
On peut pas faire ça aux coiffeurs, c'est la vieille blague. Donc, si vous voulez, ça, c'est compréhensible qu'il y ait des limites à la tyrannie de la majorité qui sont inscrites dans la loi, et à ce moment-là, le seul boulot, c'est d'interpréter cette interdiction. Mais vous pouvez pas avoir quelqu'un comme Fabius, qui représente rien, et qui décide à l'avance des questions...
Et tout seul, en plus.
Et tout seul, des questions que le peuple ne peut pas poser.
Oui.
Ça, c'est simplement pas possible. Et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, on est dans un gouvernement des juges, et les gouvernements des juges, ça marche jamais. Parce que ils représentent leurs intérêts en prétendant que c'est l'intérêt général.
Oui.
Il ne faut pas confondre la justice et l'honnêteté. Il y a eu des tas de juges qui ont été très corrompus.
Oui.
Par exemple, tous les juges qui ont condamné les ennemis de Staline, ou etc., ils étaient des juges tout à fait convenables.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Donc, si vous voulez, une démocratie, par exemple, je ne vois pas comment... la France accepte qu'il y ait une Cour européenne des droits de l'homme qui lui interdise de virer les gens qui sont chez elle en dehors de son... C'est simplement possible. C'est-à-dire que nous ne sommes plus souverains sur notre territoire.
Oui. Ça, d'ailleurs, De Gaulle l'avait compris parce que cette
constitution... J'ai jamais compris pourquoi il a fait le Conseil constitutionnel dans son...
Oui, alors le truc c'est que le Conseil constitutionnel a complètement dérapé après la mort du général de Gaulle.
Après Pompidou, oui.
Voilà.
C'était en fait, comment il s'appelait celui-là ? C'était Palaiseauvski qui détestait Pompidou, donc il en a fait un instrument de pouvoir. C'est affreux. Non mais voilà ce que la conclusion qui va arriver, parce qu'on est en train de déborder un petit peu là, mais pour moi c'est assez simple, c'est que si un pays ne marche pas, si un pays part en volo, etc., c'est que au fond, sa loi fondamentale ne marche plus. Les gens ne réussissent plus à s'exprimer. Donc je dis la loi fondamentale en Allemagne, la loi fondamentale en Angleterre, la loi fondamentale en France ne marche plus.
Ouais.
Alors c'est à cause des tentatives de créer un État européen, etc. Il y a plein de raisons là-dedans. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes, la loi fondamentale, celle qui sous-tend tout, n'est plus satisfaisante.
Oui.
Et pour traiter le problème, il faut commencer à l'accepter.
Oui.
Or, la plupart des gens, quand je dis ça, ils me disent « Mais la Constitution 5e, le général de Gaulle, j'en ai rien à foutre, c'était il y a 70 ans. »
Oui.
Pour eux, c'est inscrit. Non, c'est pas l'étape de la loi. C'est une œuvre humaine. Et les constitutions de la 5e, ça a été fait par Debray, c'était pour concentrer les pouvoirs sur un seul homme, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Oui, absolument, je suis entièrement d'accord avec ça. Oui.
Il faut empêcher un homme de tout bloquer, comme l'a fait le président actuel.
Oui, tout à fait.
Et il faut...
D'ailleurs, j'ai l'impression que, visiblement, l'opinion, par son évolution sur les 10 dernières années... tend à vouloir mettre le Rassemblement National au pouvoir. Sauf que ce qui fait beaucoup de peur aux gens, c'est l'idée d'avoir accès à la présidence de la République, parce que c'est un organe absolument
extrêmement important. Si le Rassemblement National est un parti vraiment fasciste, c'est-à-dire ce qui est une connerie, Et si on met un titre du Rassemblement national à la tête, il
Oui.
peut utiliser toute la puissance de l'État
Oui. Voilà.
pour tuer la
Et donc
démocratie.
c'est sans doute nécessaire de supprimer la présidence de la République, ou en tout
Ou
cas,
d'en lui enlever un certain nombre de
voilà, en tout
pouvoirs.
cas, supprimer la notion de présidence telle qu'on la comprend aujourd'hui depuis
Oui,
70
par
ans,
exemple, il
pour
faut.
que l'opinion puisse se faire de manière beaucoup plus sereine.
Sereine, et que par exemple, le peuple ait le droit de poser une question au peuple en disant,
Ouais.
bon, le président de la République nous dit qu'il faut faire un avion franco-allemand pour je ne sais quelle raison.
Oui.
C'est un transfert de technologie de la France à l'Allemagne gratuitement. Il n'y a aucune raison, foutez la paix à Dassault et qu'il fasse
Ouais, tout à
l'avion tout
fait.
seul.
Oui, parce que ça, alors j'ai appris ça ce matin en écoutant, c'était Vincent Hervouët qui en parlait chez Pascal Praud, et il disait que, d'après ses informations, le fait de vouloir nommer Bruno Le Maire ministre des Armées, après que Édouard Philippe l'ait refusé, c'était une suggestion d'Emmanuel Macron, parce que Bruno Le Maire est germanophile, il parle allemand, et parce que depuis 8 ans, Emmanuel Macron cherche à aboutir à ce projet
De fusion de la
d'avion,
France et de
voilà,
l'Allemagne.
en commun de l'aviation française et allemande.
Et il veut absolument, absolument regarder ce qu'il a fait. Il a foutu en l'air l'industrie française pour arranger les prix d'électricité pour l'Allemagne. Donc, chaque fois qu'il y a un problème entre la France et l'Allemagne, Macron a choisi l'Allemagne.
Voilà.
Ben peut-être qu'il faudrait des référendums pour que les Français disent on préférerait que vous choisissiez la France.
Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était un de ses derniers projets à Emmanuel Macron, détruire ce qui reste de l'industrie, de la technologie et de la souveraineté militaire française. Voilà. Et en mettant Bruno Le Maire dessus, qui, je l'imagine, aurait eu un franc succès dans ce domaine-là.
En 15 jours, il faut enlever l'armée française,
Ouais,
c'est sûr, c'est vrai.
franchement, j'ai un pire, si j'avais un pire ennemi, mais je leur enverrais Bruno Le Maire, simplement, pour gérer leur industrie, leur
Mais c'est ça,
économie,
c'est
leur,
ça, c'est
donnez-lui les pleins pouvoirs, vous inquiétez pas, il va se resserrer la ceinture, ça va
ça. Et
filer.
comme le disait le maire, son vrai problème, c'est qu'il était trop intelligent.
Oui, alors ça, on a beaucoup ce problème, hein, avec notre classe politique, c'est qu'ils sont beaucoup trop intelligents, hein, que ce soit
C'est ce que
Jouquet, que ce
disait.
soit Macron, que ce
Ils
soit
sont
Bruno
tous
Le
très
Maire, ils
intelligents.
sont tous extraordinairement intelligents.
C'est ce que disait Montaigne. Il disait, j'aime les gens de mon pays, c'est-à-dire la Gascogne, parce qu'ils n'en savent pas assez pour raisonner de travers. Ben, je trouve que moi, il faudrait mettre des garagistes, comme c'était le brave, le meilleur ministre
Oui, je sais,
Le
mon nom m'échappe.
garagiste était le meilleur ministre des Finances français, ou bien Pinet, qui était un tanneur, qui faisait des pots tannés, etc. Donc, il faudrait interdire absolument au monde administratif de prendre des positions politiques. Vous n'avez pas le droit de faire de la politique si vous êtes fonctionnaire.
Ouais, plus le temps passe et plus je le pense aussi, ouais. J'avais du mal à comprendre le vrai intérêt au début, mais c'est vrai que oui, la classe administrative est notre plus gros
Doit rester à
problème.
sa place.
Ouais, doit rester à sa place. Et pareil aussi sur le Conseil constitutionnel, encore une fois, on a une notion qui est totalement inverse pas au Conseil constitutionnel, mais enfin à la Chambre suprême, à la Cour suprême aux États-Unis, c'est que là-bas, ce sont des juges qui n'ont jamais fait de politique. Chez nous, ce sont des politiques qui n'ont jamais été juges. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait siéger au Conseil constitutionnel, le
Et
Conseil des
pas connaître
neuf.
la différence entre le droit civil et le droit public.
Voilà, exactement. Vous pouvez ne pas avoir fait le premier cours de la première année de droit dans n'importe quelle université.
Voilà, donc ça a été un petit peu long, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que tous ces troubles qui se passent dans le domaine de l'économie, etc., c'est qu'il n'y a personne de responsable, personne de... Et ce qui m'étonne le plus, c'est que ces gars-là, ils font erreur sur erreur et il leur arrive jamais rien. Regardez, le maire, ça a été un vrai désastre comme ministre des Finances. Et qu'est-ce qu'on fait? Clac! On le ramène comme ministre des Armées. Mais c'est un type, si vous voulez, qui doit maintenant, il devrait partir, je sais pas où, au Pays Basque et qu'on ne le voit plus jamais,
C'est
quoi.
une insulte, mais
C'est une
vraiment.
insulte à la responsabilité.
C'est une insulte, alors déjà au Parlement, mais aussi au peuple français. C'est une insulte au Parlement parce qu'il vient de censurer un gouvernement, on ressort exactement le même. C'est une insulte au peuple français parce que bah, je crois que j'ai même pas besoin de détailler pourquoi. On est quand même dans un moment politique où le problème numéro un, au jour le jour désormais, c'est notre dette.
Oui.
Et on vient mettre dans le gouvernement le ministre qui, dans l'histoire de France, a le plus cumulé de dettes sur le pays.
Et un
C'est quand
endroit où
même.
on est encore à peu près crédible, c'est la défense.
Oui.
Alors c'est vraiment. Donc En d'autres termes, vous regardez ces gars-là, vous dites, ils se foutent de nous.
Oui.
Ils se foutent de nous. Ou ils s'en foutent de nous,
je sais pas. En fait, le pire, c'est que je pense que le cornu, c'est quelqu'un qui aurait eu sans doute, qui aurait été très bien comme Premier ministre pour le premier mandat de Macron.
Oui.
Parce que c'était un porte-voix, voilà. En revanche, là, son boulot, c'était un peu de prendre des initiatives et de composer un truc. Alors, moi, je ne dis pas que la tâche était facile, je ne dis même pas qu'elle a été faisable, d'ailleurs, mais on a l'impression qu'il n'a même pas vraiment essayé. Et
c'est pas faisable.
Je pense que par son profil, à mon avis, c'est quelqu'un qui a voulu tellement bien faire que finalement, il a tout fait de travers.
Il a fait tout fait de travers. Bien, écoutez. Je crois qu'on va rester là parce qu'on a déjà couvert le sujet massivement.
Donc merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut de Liberté et aussi sur l'Université de l'Épargne, n'oubliez pas.